Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nine Art Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Cahier d'écriture, attribué à Joël Bellassène et identifié par le numéro 2359-506-2252, est un support pratique consacré à l'apprentissage manuscrit des caractères chinois. Il ne se présente pas comme une méthode complète de langue, mais comme un cahier d'entraînement structuré pour accompagner la répétition, la mémorisation visuelle et le respect des conventions graphiques. Les informations disponibles indiquent la présence de repères sur les 8 traits fondamentaux, les 24 traits combinés, les 214 clés, ainsi que des composants graphiques et des espaces de quadrillage avec une ligne destinée au pinyin. Son objectif est donc double: donner des références minimales sur la construction des sinogrammes et fournir une surface organisée pour les reproduire régulièrement. Cet objet pédagogique répond à une difficulté centrale. Pour les débutants, un caractère chinois ne se réduit pas à une image à copier, car sa lisibilité dépend de la proportion, de la direction des traits et de leur enchaînement. Le cahier privilégie la pratique autonome en complément d'un cours, d'un manuel ou d'un dictionnaire de chinois. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, les traits fondamentaux comme point de départ de la formation graphique. Le cahier ouvre avec un tableau consacré aux 8 traits de base des caractères chinois, accompagnés de leur dénomination, de leur orientation et d'exemples. Ce choix est pédagogiquement cohérent. Avant de tenter de mémoriser des caractères entiers, l'apprenant doit distinguer les gestes graphiques qui les composent. Un trait horizontal, vertical, descendant ou crochu ne constitue pas un simple détail esthétique. Sa direction et sa terminaison influencent la forme générale du caractère et permettent de reconnaître des éléments proches. La présentation sous forme de tableau favorise une consultation rapide pendant les exercices, sans transformer le cahier en traité théorique. Elle aide aussi à relier le vocabulaire descriptif utilisé par un enseignant au mouvement que la main doit produire. Dans l'écriture chinoise, la régularité provient moins de la copie d'une silhouette globale que de la répétition de gestes relativement stables. Le cahier fournit ainsi un socle utile aux personnes qui découvrent les sinogrammes et qui risquent autrement de dessiner les caractères de manière approximative. Sa limite est assumée, ses repères ne remplacent ni la démonstration d'un ordre précis des traits pour chaque caractère, ni une progression linguistique. Il donne toutefois les catégories visuelles nécessaires pour observer ses erreurs et améliorer son tracé par répétition. Deuxièmement, les traits combinés pour comprendre la complexité réelle des sinogrammes après les formes élémentaires. Le cahier répertorie 24 traits combinés avec leur orientation et des exemples. Cette seconde table évite une simplification excessive de l'écriture chinoise. Dans de nombreux caractères, les gestes observés ne correspondent pas seulement à une succession de lignes isolées, certains mouvements associent inflexion, changement de direction ou terminaison particulière. Les identifier comme des unités graphiques aide à comprendre pourquoi deux écritures, apparemment semblables, peuvent différer par leur structure. Pour un débutant, cette distinction est importante à deux niveaux. D'une part, elle rend la copie plus attentive. Au lieu de reproduire mécaniquement un signe, il peut analyser les mouvements requis. D'autre part, elle facilite l'usage de ressources externes décrivant l'ordre des traits, souvent fondée sur cette terminologie. Le cahier ne prétend pas enseigner tous les caractères ni résoudre toutes les variations calligraphiques. Il concentre son apport sur une grammaire gestuelle de base, suffisamment stable pour encadrer l'exercice. Cette approche met l'accent sur la lisibilité et la forme standard plutôt que sur l'expression artistique. Elle convient donc à l'étude scolaire ou universitaire du chinois moderne, où écrire de façon reconnaissable et ordonnée est prioritaire. La répétition dans les cases qui suivent peut alors servir à transformer ces catégories théoriques en habitudes motrices observables. Troisièmement, les 214 clés comme répertoire de repérage lexical, une page centrale reprend les 214 clés des caractères chinois, avec pinyin et signification, classées selon le nombre de traits. Cette présence donne au cahier une fonction de référence qui dépasse le simple quadrillage, les clés, également désignés comme radicaux dans de nombreux outils lexicographiques, permettent de repérer des familles graphiques et constituent un principe classique de classement des sinogrammes. Leur apprentissage ne garantit pas à lui seul la compréhension des mots, car la relation entre une clé, le sens et la prononciation varie selon les caractères. Néanmoins, les connaître apporte plusieurs avantages concrets. L'apprenant repère plus facilement certaines composantes récurrentes, peut mieux décrire la structure d'un caractère et comprend comment utiliser des dictionnaires organisés par clés et nombre de traits. Le classement progressif selon la complexité graphique rend aussi la table plus maniable qu'une liste sans ordre. En ajoutant le pinyin et une signification, le cahier relie visuel, prononciation et indication sémantique sans prétendre fournir une leçon exhaustive de vocabulaire. Cette synthèse est particulièrement utile pendant les premières phases d'apprentissage, quand les caractères paraissent encore isolés et arbitraires. Elle rappelle que l'écriture chinoise possède des éléments réutilisables et des principes de classification. Pour exploiter pleinement cette page, il reste nécessaire de la croiser avec un manuel de langue, des exemples de mots et un entraînement régulier à la lecture. Quatrièmement, les composants graphiques et le passage de la copie à l'analyse. Le cahier inclut une liste de 104 composants graphiques avec leur signification. Cette rubrique complète la table des clés sans les confondre. Une clé est notamment utile pour le classement traditionnel. Tandis qu'un composant graphique désigne plus largement un élément qui peut participer à la construction visuelle d'un caractère. Mettre ces composants à disposition encourage une observation analytique. L'apprenant peut chercher quelles parties reviennent, comment elles se placent à gauche, à droite, en haut ou en bas, et pourquoi un caractère semble plus ou moins complexe. Cette démarche rend la mémorisation moins dépendante d'une image globale. Elle ne transforme pas automatiquement chaque caractère en assemblage transparent, car les formes peuvent être modifiées selon leur position et valeurs sémantiques ou phonétiques ne sont pas toujours évidentes. Mais elles donnent des points d'ancrage utiles pour comparer, réviser et copier avec davantage d'attention. La liste proposée doit être comprise comme un seuil de repérage graphique, non comme un vocabulaire complet ni comme une méthode de décomposition universelle. Son intérêt réside dans la continuité entre référence et exercice. Après avoir identifié un élément, l'utilisateur peut le reproduire dans les cases puis le retrouver dans des caractères étudiés ailleurs. Ce va-et-vient entre analyse visuelle et gestes manuscrits distingue un cahier organisé d'un simple bloc de papier quadrillé. Il soutient une acquisition progressive des formes sans surcharger le support de longues explications. En dernier lieu, le quadrillage avec ligne de pinyin au service d'une pratique encadrée, la plus grande partie de cahiers d'écriture est consacrée à des grilles d'entraînement divisées en cases, avec une interligne destinée au pinyin. Cette organisation répond à une nécessité matérielle, les caractères chinois demandent de gérer les proportions, la position relative des éléments et l'équilibre dans un espace carré. Les cases donnent un cadre visuel qui permet de comparer plusieurs essais et de repérer une écriture trop étirée, trop serrée ou décentrée. La ligne de pinyin ajoute un lien utile entre écriture et prononciation. En inscrivant la transcription au voisinage du caractère, l'apprenant peut consolider simultanément la forme, la lecture et les tons, à condition de vérifier ses sources. Le cahier reste volontairement sobre les retours disponibles, souligne qu'il offre surtout des pages de pratique et non des lignes de modèles à recopier pour un vaste répertoire de mots. Il doit donc être alimenté par un cours, une application, un dictionnaire ou un manuel. Cette limite peut devenir un atout pour les enseignants et étudiants qui souhaitent choisir eux-mêmes les caractères à travailler. Des avis signalent aussi un papier léger, peu adapté aux plumes ou aux encres susceptibles de traverser la page, pour la pratique courante au crayon ou au stylo ordinaire. Le format remplit néanmoins sa fonction essentielle, favoriser une répétition nette, portable et directement liée aux besoins de l'étude en cours. En conclusion, cahier d'écriture s'adresse en priorité aux débutants en chinois, aux élèves suivant un cours et aux autodidactes qui disposent déjà d'une source pour sélectionner les caractères à apprendre. Il peut également convenir aux enseignants cherchant un support peu coûteux pour organiser les exercices manuscrits sans imposer une liste de vocabulaire particulière. Son bénéfice pratique est clair, il réunit dans un format léger des repères graphiques immédiatement consultables et des pages quadrillées qui rendent la répétition plus régulière. Les tableaux sur les traits, les clés et les composants ne remplacent pas une méthode de langue. Mais ils donnent un vocabulaire visuel et des outils de classement qui éclairent la pratique. La ligne réservée au pinyin renforce le lien entre forme écrite et prononciation, dimension parfois négligée dans les cahiers uniquement calligraphiques. Par rapport à un cahier vierge, il se distingue par ses aides de référence concentrées au début, au milieu et à la fin du support. Par rapport à une méthode complète, il se distingue au contraire par sa sobriété, il ne surcharge pas l'exercice avec des leçons, dialogues ou explications grammaticales. Ce positionnement en fait un complément plutôt qu'un ouvrage autonome. Il faut aussi tenir compte du caractère simple de sa fabrication et employer de préférence un crayon ou un stylo ne traversant pas le papier. Pour qui recherche un espace structuré afin de copier, décomposer et mémoriser les sinogrammes étudiés ailleurs, ce cahier propose une réponse ciblée et cohérente. Si vous souhaitez soutenir Joël Bellassen, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.